Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Don Xavier Perrin, abbé de Couer, sur l'île britannique de Wight. Bonjour mon père. Vous êtes, madame, je le disais à l'instant, l'abbé de l'abbaye bénédictine de Couer, sur l'île de Wight. Couer est une fille de Solesmes, si je ne m'abuse. Vous êtes donc bénédictin. Vous avez été longtemps l'un des frères de l'abbaye de Kergonan, dans le Morbihan, que certains de nos auditeurs doivent connaître. Vous possédez donc une longue expérience de la vie religieuse et à ce titre, vous êtes spécialement bien placé pour la faire découvrir. Et vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel un petit livre à l'école de Saint-Benoît qui est vendu 15 euros, qui fait 175 pages, qui est un ouvrage fondamental pour qui veut approcher la vie bénédictine. L'originalité de votre ouvrage est qu'il ne s'agit pas seulement de nous raconter la vie de Saint-Benoît, ni de nous montrer son importance dans l'Église, ni de nous expliquer la règle bénédictine, quoique vous fassiez un peu tout cela, mais bien de nous démontrer que la spiritualité bénédictine n'est pas exclusivement réservée aux religieux, mais que tout chrétien peut s'en inspirer et en vivre. Mon père, qui est Benoît et comment un homme du VIe siècle peut-il avoir encore quelque chose à nous dire ?
Je crois que les saints sont nos contemporains, ils sont le don de l'Esprit Saint à l'Église et donc ils sont toujours donnés aux chrétiens qui peuvent se tourner vers eux pour s'inspirer de ces hommes et de ces femmes qui ont suivi le Christ de manière totale, absolue, exemplaire. Alors Saint Benoît est l'un d'entre eux, en un sens il est un très grand parmi ces saints puisqu'il a été suivi par des quantités de disciples, hommes et femmes depuis le VIe siècle. Il continue d'avoir un très grand nombre de disciples à notre époque, dans les monastères, sur le monde entier, dans tous ceux qui vivent de la spiritualité des monastères, notamment les oblats et oblates bénédictins, tous les amis des monastères, tous les gens qui passent en visite dans ces lieux de prière et d'adoration. Donc je pense que Saint Benoît est très présent discrètement, parce que ce n'est pas un homme qui fait du bruit, mais il est très présent dans la culture chrétienne de notre époque et dans notre monde tout court. Et il a certainement encore beaucoup de choses à nous dire, la principale étant de nous montrer que Dieu est plus grand que tout et que donc on fait toujours bien de tout lui sacrifier et de tout lui donner.
En quoi la règle de Saint Benoît, qui n'est pas la première, il y en a eu d'autres, il y a eu celle de Saint Pacôme, celle de Saint Basile en Orient, est-elle particulière et pourquoi a-t-elle pris une importance pareille dans l'histoire de l'Église et de l'Occident?
Oui, quand Saint Benoît compose sa règle, il y a déjà des moines depuis 3 siècles à peu près, et sa règle va être une des règles monastiques pendant pas mal de temps, et à partir de l'époque carolingienne à peu près, on va considérer que sa règle représente un très bon équilibre et au fond qu'elle marche bien, qu'elle est applicable dans beaucoup de situations, qu'elle est suffisamment souple, qu'elle est suffisamment prévoyante, qu'elle est suffisamment mesurée aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans les excès ni de laxisme ni d'austérité. Et elle va devenir, de fait, avec l'encouragement de Rome, elle va devenir peu à peu la règle des monastères en Occident, puis comme ces monastères ont fondé dans le reste du monde, elle est devenue la règle de tous les monastères. Saint Grégoire le Grand, qui a écrit la biographie de Saint Benoît, disait déjà que la règle était remarquable par son équilibre, sa modération, sa discrétion. Il utilisait ce vieux mot de français de discrétion. Donc c'est au sens d'équilibre. Je crois que c'est ça le succès de la règle de Saint Benoît, c'est qu'elle est très, très divine, mais profondément humaine.
Oui, à la différence par exemple de celle de Saint Colomban, qu'elle va d'ailleurs supplanter, qui est beaucoup plus violente d'une certaine façon.
Oui, plus excessive, oui. Tout en étant très belle par certains côtés, mais on ne peut pas vivre ça très, très longtemps.
Pour Saint Benoît, mon père, le moine est un chrétien qui vit intégralement les promesses de son baptême. Est-ce qu'il faudrait en déduire que ceux et celles qui ne choisissent pas la vie religieuse sont infidèles à leur grâce baptismale ?
Bien sûr que non. Peut-être faudrait-il corriger légèrement, si vous me permettez votre formulation, le moine des chrétiens qui est appelé à vivre intégralement les promesses de son baptême dans une vocation particulière. Alors c'est vrai que c'est une vocation qui lui donne les circonstances, tout le cadre qui lui permet de vivre vraiment cela le mieux possible. Il n'y a pas de distraction, il peut se centrer sur cela. Mais c'est justement, quand on essaie de le faire, on se rend compte que ce n'est pas si facile. Il ne suffit pas d'être un cadre porteur. Il faut beaucoup de générosité du cœur. Il faut beaucoup de dons de soi pour répondre à l'appel de Dieu. Et on rencontre les obstacles de la conversion que tout un chacun peut rencontrer. Et donc, le moine, il fait de son mieux, il est appelé à la conversion, et surtout il est un signe, un rappel pour tous les chrétiens qu'au fond, tous sont appelés à une profonde conversion. Il n'y a pas deux christianismes, il y a un pour les moines et l'autre pour les gens ordinaires. Il n'y a qu'une façon d'aller à Dieu, c'est de se donner totalement à lui. Alors ce qu'on fait par petits bouts, petit à petit, progressivement dans sa vie, un évêque qui est ordinaire prêtre dans le monastère de Kaganor avait dit un jour que le monachisme donne à la consécration baptismale son maximum de visibilité ecclésiale. Je crois que ça exprime bien ce qu'est le monastère. On voit ce que c'est à travers la vocation des moines, nous voyons tous ce que c'est qu'être baptisé, c'est être totalement consacré à Dieu. Alors les moines nous tirent un peu dans ce sens-là par leur type de vie, mais c'est un challenge pour eux chaque jour.
Est-ce que l'on pourrait être moine n'importe où, mon père, ou est-ce que le monastère en soi est une nécessité?
C'est sûr que le monastère a beaucoup, beaucoup d'importance, parce que on vit dans un lieu, on choisit d'une certaine manière, les générations précédentes ont choisi pour nous un lieu qui est adapté à une certaine séparation du monde, une certaine solitude, une certaine qualité de silence. Donc le lieu a beaucoup d'importance et les lieux nous façonnent. Les monastères nous aident par les bâtiments, quand ils sont bien faits, ils nous aident à vivre la vie monastique. Mais ceci dit, je crois quand même que le plus important pour Saint-Benoît, c'est pas tellement le lieu, même s'il parle de la stabilité. C'est plutôt le rythme temporel. Ce qui façonne le moine en profondeur, c'est le retour 7 fois par jour, 1 fois dans la nuit, à la prière liturgique. Et ça, on peut le vivre même si on est par accident séparé de son monastère. Alors, c'est bien sûr, le monastère, c'est beaucoup mieux pour le vivre. Mais s'il y a une persécution, s'il y a, je sais pas trop quoi, une révolution, eh bien, on peut continuer à vivre ce rythme monastique. On peut continuer à essayer de vivre ce rythme de la prière. Le pape François dit que les processus du temps sont plus importants que les lieux. Je crois que c'est exactement ça. C'est cette dynamique, cette manière dont nous rythmons notre temps en revenant vers Dieu qui nous structure le plus profondément.
Et la communauté, peut-on être moine seul? Pas tellement, selon la pensée de Benoît.
Vous avez raison. Pour dire l'office, d'ailleurs, on se réunit et la communauté est très, très importante. Rester dans un lieu constant avec les mêmes personnes qu'on n'a pas choisi, avec qui on a une affinité profonde de cœur, mais pas forcément des affinités très nombreuses au reste, aux différents niveaux de la personnalité, ça peut être un réel effort, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi une force considérable d'être soutenu par des frères qui vont sur ce même chemin, qui sont là pour nous aider le jour où on flanche un petit peu. Ils sont là, on fléchit, ils nous remettent debout, et ensuite peut-être qu'on le fait pour les autres aussi. Donc la communauté, c'est un merveilleux cadeau.
Vous-même êtes abbé, en quoi cela consiste-t-il? Comment vit-on ce qui est une paternité spirituelle, lourde je pense, et quels en sont les devoirs?
Alors il y a des choses qui varient beaucoup suivant les situations, parce que moi je suis abbé d'une petite communauté, on est 8, il y a des communautés de 160, 100 moines, 200 moines dans certains pays, 300 moines en en Orient, en Extrême-Orient. Donc la responsabilité de l'abbé varie beaucoup. Il y a des constantes, c'est l'abbé a beaucoup de responsabilités dans la règle. Il a à la fois une sorte de leadership pour la communauté, pour la petite entreprise qu'est le monastère, et puis il a un rôle pastoral, il doit donner une direction, un élan, il doit conduire la communauté vers Dieu par son enseignement, par son exemple, par les décisions qu'il prend. Et puis il a un rôle de paternité spirituelle à l'égard de chaque moine, et ça se vit de manière variée avec chacun, bien sûr, suivant l'étape où il en est de son parcours monastique, différemment avec un ancien ou avec un jeune. Et puis à l'égard de toute la communauté à qui il transmet quelque chose de l'esprit du Christ. Quand je réfléchis à tout ce que je viens de vous dire, ça me fait très peur, parce que c'est une responsabilité qui est très grande, mais avec des frères qui aident bien, comme j'ai la grâce d'en avoir, eh bien c'est aussi une très grande joie de pouvoir vivre cette belle mission.
Lorsque l'on regarde la vie monastique de l'extérieur, il y a une notion qui paraît, je pense, difficile à admettre à nos contemporains, d'ailleurs probablement difficile à admettre par tous les hommes à toutes les époques, c'est l'obéissance. Comment vit-on l'obéissance ? Vous avez été simple moine avant d'être abbé, comment obéit-on ?
Je pense que le grand principe que dit Saint Benoît, c'est l'obéissance qu'on donne aux hommes, elle s'adresse à Dieu. Et donc l'obéissance, il s'agit d'obéir, il s'agit d'obéir à Dieu. Alors à travers l'abbé machin, à travers telle autre personne, à travers les circonstances, à travers peut-être telle ou telle médiation ecclésiale ou même de la société, c'est à Dieu que s'adresse notre obéissance, et c'est parce que nous reconnaissons que sa volonté nous est intimée, manifestée par le supérieur, que nous lui obéissons. Donc dans l'obéissance, il y a une part de discernement qui est très importante, c'est de reconnaître la volonté de Dieu. On n'obéit pas comme un esclave dans un monastère, on n'obéit pas non plus comme un robot ou un automate, on obéit de manière libre parce qu'on a choisi d'obéir, et donc on discerne avec le supérieur quelle est la volonté de Dieu dans le détail ou dans les grandes lignes de ma vie. Donc il y a une époque de dimension de discernement. Et puis il y a une dimension d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de discerner, il s'agit de faire la volonté. Et là on rencontre tous les obstacles qui sont en nous, parce que parfois nous voyons ce qui est bien et on a envie de faire autre chose, et on n'est pas tout à fait prêt à obéir. Et donc c'est un grand combat. L'obéissance, le combat invisible du monastère. Quand on voit un monastère, on voit des hommes qui prient ou des hommes qui vivent en commun, et c'est vrai. Mais ce sont aussi des hommes ou des femmes qui essaient de vivre le mystère de l'obéissance. Et l'abbé est plein de sympathie pour ces moines, parce que bien sûr, il a la mission de leur donner de temps en temps des commandements ou des ordres, mais enfin, il rencontre en lui-même les mêmes combats qu'eux par rapport à accomplir la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'est celui qui fait la volonté du Père, qui rentre au ciel, nous dit Jésus. Donc les moines doivent se rappeler ça, même si on passe beaucoup de temps en prière, l'essentiel c'est de traduire notre adhésion à Dieu dans l'adhésion aux actes concrets, à ce qu'il nous demande au jour le jour, à la minute et la minute. Faire maintenant ta volonté, Seigneur.
C'est comme cela qu'on arrive à la sainteté.
Oui, espérons, oui.
On essaye en tout cas.
Oui. Oui, on essaie d'aller à la sainteté par tous les moyens qui sont les moyens classiques. Les moines en font, on n'a pas d'autres moyens que les moyens du chrétien. On lit la parole de Dieu, on fréquente les sacrements, on essaie d'aimer ses frères et on essaie de mettre en œuvre la volonté de Dieu, principalement le commandement de la charité, le commandement de l'amour. On essaie de faire ça.
La famille bénédictine, mon père, est vaste. Elle s'est ramifiée avec le temps. Pourriez-vous évoquer, comme vous le faites dans votre livre, quelques-uns de ces rameaux ou de ces grandes maisons qui ont fait la gloire de l'ordre au cours des siècles ?
Oui, alors c'est une très longue histoire que je ne fais que toucher de manière très, très, très légère. Ça doit vous êtes historienne, ça doit vous scandaliser dans mon petit livre.
Nullement, c'est remarquablement fait.
C'est gentil, merci. Mais que dire Au point de départ, Saint Benoît ne fonde pas un ordre, il donne une règle à son monastère, et il va fonder deux, trois monastères de son vivant. D'autres personnes vont s'inspirer de sa règle, et les ordres, les regroupements de monastères, ça va commencer à apparaître dans la deuxième partie là, du Moyen-Âge, quand on va avoir, enfin, disons, le Moyen à partir du 9e, 10e siècle, qu'on commence à regrouper les monastères, avoir des familles, avoir des sortes d'ordres. Cluny est un de ces ordres où on a une sorte de grande famille monastique répartie dans de nombreux monastères, avec des milliers de moines qui obéissent pratiquement tous à un père abbé au sommet. Et puis, ensuite, des tas de situations différentes suivant les pays, suivant les époques, suivant les besoins, suivant l'évolution de la société, suivant la manière aussi dont le monachisme est intégré à la société, alors parfois de manière très forte, comme vraiment un maillon essentiel de la chaîne sociétale, comme au Moyen-Âge, pour dire en très gros, ou alors, au contraire, sur les marges, comme plutôt à notre époque, les moines sont présents dans la vie de l'Église, mais plutôt en marge de la société. Donc, à l'heure actuelle, l'ordre bénédictin compte une vingtaine de congrégations, de regroupements de monastères, qui ont toutes des histoires différentes et qui sont souvent réparties par région, des congrégations américaines, européennes, ou alors en fonction de leur histoire, la congrégation de Solesmes, la congrégation de Subiaco, la congrégation du Mont-Olivet, pour citer trois congrégations qui sont présentes en France, qui sont rattachées à des monastères où se trouve une sorte de maison-mère, et avec des usages ou des orientations un petit peu différentes d'une maison à l'autre. Enfin, on pourrait parler pendant des heures de tout cela.
Pourriez-vous nous parler plus précisément, mon père, puisque je crois que Couère est une fille de Solesmes, pourriez-vous nous parler de Solesmes et de Don Guéranger ?
Oui, Don Guéranger, c'est un homme remarquable qui a eu l'intuition. Il est né en 1805, il n'y avait plus de monastère, il n'y avait plus un seul monastère bénédictin masculin en France, après la Révolution française, et il a fait le séminaire pour le diocèse du Mans, et il a eu l'intuition que l'Église, elle avait besoin du monachisme. Elle avait besoin de la prière des moines, elle avait besoin de l'étude des moines. Pour lui, c'était une dimension assez importante, des travaux scientifiques des moines, des travaux de recherche théologique et historique. Et puis, elle avait besoin aussi du témoignage de la vie consacrée, de la vie communautaire dans la charité. Donc, en 1833, il a racheté le prieuré de Solesmes, près de Sablé, dans la Sarthe, et il s'est lancé, avec un tout petit peu de formation auprès des moines en Italie, mais pas très longtemps, et surtout avec un charisme personnel remarquable, il a refondé le monachisme bénédictin en France. Les trappistes étaient revenus, avaient une sorte de continuité, eux existaient déjà, il y avait des monastères trappistes en France depuis la Restauration, mais le monachisme bénédictin a recommencé en 1833. Et il a fait cela, ça a été la source de plusieurs maisons qui ont essaimé ensuite, d'abord en France, puis à l'étranger. Et aussi, il a eu un rôle très important dans le retour à la liturgie romaine au XIXe siècle. Alors que la liturgie s'était un petit peu diversifiée et un peu éclatée suivant les usages locaux de divers diocèses. Donc Guéranger a eu l'intuition qu'au fond c'était une bonne chose qu'on prie tous avec les mêmes mots et avec de la même manière, et que le plus simple serait de se rattacher à la manière dont Rome prie. Et puis il s'est rendu compte que la tradition romaine de prière et de chant avait une très grande qualité. Et c'est cela qu'il a essayé de donner, de rendre à l'Église de France. Et à sa mort, tous les diocèses de France étaient passés à la liturgie romaine en 1875.
Comment l'ordre bénédictin est-il revenu en Angleterre, mon père ?
Alors en fait, il l'avait jamais abandonné, puisque Augustin de Canterbury a apporté, au moins sur la tradition, la règle de Saint-Benoît quand il est arrivé en 597 en Angleterre, envoyé par Grégoire le Grand. Et il y a eu des grands monastères bénédictins en Angleterre. La congrégation bénédictine anglaise existe toujours et c'est la congrégation la plus ancienne dans l'ordre des congrégations. Ils ont vécu, malgré la réforme d'Henri VIII, ils se sont rapatriés, réfugiés en France, mais ils ont continué à aller en Angleterre de façon un peu missionnaire. Donc il y a une grande tradition bénédictine en Angleterre. Coire Abbey a été fondée simplement à cause des expulsions des religieux au début du XXe siècle en France, les lois anticléricales, ce qu'elle est devenue la loi sur les associations, et puis bientôt la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, tous les ordres bénédictins ont quitté la France à ce moment-là. Et les moines ont trouvé refuge en Angleterre, qui pourtant anglicane a été un pays remarquablement accueillant. Donc sur l'île de Wight, les moines ont construit un très beau monastère avec un très bon architecte qui était l'un d'entre eux. Et donc après, en 1922, les moines de Solesmes sont rentrés en France, mais ils ont laissé 25 moines. C'est l'origine du monastère où je vis maintenant.
Mon père, comment aujourd'hui dans le monde, dans un monde agité et bruyant comme le nôtre, peut-on vivre la voix et l'esprit de Saint Benoît? Auriez-vous, puisque cette émission se termine, quelques conseils pratiques à donner à nos auditeurs?
Mais je dirais que c'est peut-être un certain rapport au temps. D'abord, je dirais s'inspirer de Saint Benoît. La principale chose qu'il nous demande, c'est de revenir vers Dieu de manière régulière dans nos journées, suivant le rythme de prière de la liturgie de l'Église. Alors, il ne s'agit pas que les laïcs ne peuvent pas faire, évidemment, les 7 heures de prière et tous les psaumes que disent les moines, mais revenir vers Dieu dans la prière et s'unir à la liturgie de l'Église avec tous les moyens modernes qui existent, c'est une chose qui structure le temps. Et ainsi, nous donnons à Dieu l'occasion de cultiver notre âme par sa parole. Alors attention au temps et puis ensuite un rapport aux choses, au monde, je dirais, avec cette idée de mesure, de discrétion, d'équilibre, d'éviter les excès, qui peut même fleurir en une notion d'écologie, si vous voulez, le juste rapport de l'homme au monde. Et puis bien sûr, le rapport aux personnes. La règle, elle est faite pour des gens qui vivent ensemble, et nous vivons tous dans des mini-communautés qui ne sont pas toujours des communautés que nous avons choisies. Et nous avons à exercer la patience, un certain effacement pour que l'autre puisse grandir, une certaine hospitalité, une certaine bonté, une gratuité du don. Et puis finalement, je dirais un rapport à soi-même en prononçant le grand mot de la règle de Saint-Benoît, le mot humilité, c'est-à-dire que Dieu seul est grand. Et cette grandeur ne nous écrase pas du tout, mais elle nous aide à prendre notre juste place. Et c'est seulement quand on a rejoint cette juste place qu'on peut fleurir. Je crois que Saint Benoît peut nous aider à fleurir en sainteté à partir du terreau de notre humilité.
Merci mon père. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevions donc Xavier Perrin, abbé Coire Abbey sur l'île de Wight en Grande-Bretagne, qui publie un très remarquable petit ouvrage à l'école de Saint-Benoît, publié aux éditions de l'Emmanuel, 175 pages, 15 euros, une initiation tout à fait remarquable à la pensée bénédictine, à la spiritualité bénédictine. Un grand merci, mon père, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir parlé de Saint-Benoît et de la manière de vivre selon la pensée de Saint-Benoît.
Merci de m'avoir accueilli.